Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bonjour, Docteur Mayou.
Catherine, Raphaël et Serge, je ne sais pas si Raphaël est là.
Non, pas pour l'instant. Raphaël est un petit peu dans le jus présentement.
Dans le jus?
Oui.
Ben, Serge, alors?
Alors, pour quelle raison? Est-ce que vous avez un message à Raphaël?
Non. J'attendais les études.
C'est ça, malheureusement.
Mais je vais être obligé de vous parler moi-même d'études.
Ah oui?
Ben oui.
OK, allez-y donc.
Non, ben, je viens d'entendre Isabelle Berdua. Elle est très bonne. Mm-hmm. Alors, parce qu'il y a très peu de personnes, de professionnels au Québec qui connaissent quelque chose au transsexualisme, c'est-à-dire à la dysphorie de genre, comme elle l'a adéquatement appelée, c'est-à-dire un trouble d'identité sexuelle qui fait souffrir les propriétaires de ces problèmes-là.
Oui.
Alors, écoute, un petit différent, c'est que dans la littérature internationale, dans le DSM que j'ai devant moi, on reconnaît qu'il y a beaucoup plus d'enfants nés garçons qui vont vouloir devenir des filles que l'inverse.
Oui.
Bon, alors c'est probablement un biais de consultation. Cependant, et ça pourrait être lié aux personnes qui la consultent. Est-ce que tu savais que les enfants nés filles vont être beaucoup plus tenaces dans leur désir de changer de sexe que les enfants nés garçons qui veulent devenir des filles?
Ah oui? Non, je savais pas ça.
Ouais, alors c'est ce que dit le DSM-5. Grande nouvelle ce matin, vous avez ça direct un peu à la Raphaël.
OK, ah oui?
Vous avez, ben oui, ça vient pas de Mayou, là, non, ça vient du DSM-5, qui est une reconnaissance de ce qui se passe autour du globe. Alors, dis le bouquin.
Mais tout à l'heure, je vous faisais référence à Mme Berdua, là.
Oui.
Quand elle disait, puis on peut la faire entendre, peut-être l'extrait, le deuxième extrait, Serge, lorsqu'elle dit qu'il y a plus de femmes, elle, qu'elle rencontre, qui changent, qui s'en vont, en fait, qui naissent femmes et qui deviennent hommes. Voici ce que Mme Berdua disait.
Puis hier, j'entendais justement le Dr Mayou, qui me parlait, qui disait quand même qu'il voit plus d'hommes qui vont changer vers femmes.
Oui.
Faire une transition. Et moi, j'ai fait un petit exercice ce matin, très rapide de mémoire. Là, et moi, mes proportions sont complètement inversées.
C'est vrai? Vous avez plus de femmes qui veulent devenir hommes?
Oui, bon, ce serait intéressant que j'étudie ce phénomène depuis que je les vois, voir si ça se maintient, mais oui. Et quand on parle de chiffres, là, les chiffres officiels datent de très longtemps, là, mais on parlait avant de une personne sur 6 000 qui se disait femme dans un corps d'homme.
Oui.
Et une personne sur 18 000, ça, c'est des chiffres de l'ATQ, l'Association des transsexuels du Québec. Une sur 18 000 qui se disait homme dans un corps de femme.
OK. Complétez, je m'en vais ailleurs après.
Oui, c'est vraiment une question de perception, parce que les femmes qui se sentent hommes vont pas nécessairement aller sur faire des transitions, parce qu'elles passent plus facilement avec un petit style un petit peu tomboy, alors que l'inverse, ça passe moins facilement. Fait que c'est une des hypothèses pourquoi on pense que les gens qui se sentent femmes, vont plus aller vers des transitions que les autres.
Hein. Docteur Mayou, vous dites que c'est un biais de consultation, mais elle a des chiffres de l'Association des transsexuels.
Oui, bien là, le DSM autour du globe, vous entendez. Elle a mentionné 1 pour 6 000 garçons qui veulent devenir des filles et 1 pour 18 000 des fillettes qui veulent devenir des garçons.
Ouais.
La différence est peut-être pas si grande que ça.
Non.
À sa défense. Wow, okay. Elle est bonne. Écoute, on ne chicanera pas les statistiques parce que c'est mal fait autour du globe.
Ah oui?
Ben oui.
Mais vous voulez dire que c'est mal comptabilisé? Ou...
Ah, c'est mal comptabilisé. Alors, on ne part pas de guerre là-dessus.
Non, c'est pas ça. Non.
Si ce n'est qu'on convient que c'est rarissime.
Oui.
Bon.
Oui, bien que ça soit en augmentation.
Non.
Non, ça vous laisse.
Non, il y a une augmentation des consultations, pas une augmentation des cas.
OK. Ah, ça, c'est
puis là-dessus, elle a raison, Isabelle.
Oui.
Alors, elle a dit une hausse marquée des gens qui se reconnaissent et qui le disent.
Ah, vous avez raison.
OK. Oh, j'ai écouté, madame.
Je sais que vous écoutez. Vous prenez souvent des notes, d'ailleurs.
Ben, j'ai des notes. J'ai plein de notes devant moi.
J'en doute pas.
Alors, l'autre point.
Oui.
Elle a dit qu'elle a référé au genre assigné par le médecin. Non. Le médecin, lui, assigne un genre des visous en regardant le bébé. C'est pas lui qui assigne le genre, il le constate visuellement. Mm-hmm. On passe pas de test, là. On fait pas un test de chromosome à la naissance des bébés. Alors, si un petit pénis, c'est un garçon. Si un petit vulve, c'est une fille. D'accord?
Oui, je vous suis.
Alors, le genre n'est pas assigné par la médecin dorénavant, parce que les gynécologues, les obstétriciennes sont de plus en plus nombreuses. Alors non, le genre n'est pas assigné, il est constaté.
OK. Est-ce que à la question...
C'est une petite différence gentille pour Isabelle.
Oh, ouais. À la question que posait Gabrielle tout à l'heure, pourquoi ne pas faire... Pourquoi ne pas faire un traitement hormonal pour accompagner...
Oh! Attendez, là, vous avez besoin de plus qu'Isabelle.
Oui, laissez-moi terminer. Je vais juste terminer ma question, parce que les gens n'étaient peut-être pas à l'écoute. Pourquoi ne pas faire un traitement hormonal pour accompagner l'enfant à demeurer dans le sexe qu'il est réellement et l'accepter? Je vous écoute.
Là, ça vous prend un vieux book expérimenté pour répondre
à cette
question-là.
C'est pour ça qu'on l'appelle le vieux book.
Hey, yeah! Alors, traitement hormonal pour demeurer. Les études hormonales, chers auditeurs, ont démontré que leurs hormones... à l'adolescence masculine ou féminine, sont tout à fait normales. Ah, ce n'est pas un problème hormonal.
Ah.
Non.
OK. Mais
pas
là,
du tout.
Ah non, ça n'a rien à voir avec
tout.
Ça.
Pas du tout. Alors, les petits garçons qui désirent devenir des filles à l'adolescence ont le même taux dans le sang de testostérone que les autres garçons normaux.
Ah oui?
OK.
Ben là, je suis surprise.
Ben oui, c'est okay. Pas un problème d'hormones.
Ben non, mais
autrement,
j'aurais
ça serait
pensé.
Trop facile.
Okay.
Non. Oubliez ça totalement.
Bon, j'ai d'autres questions.
Et j'en ai un là qui veut changer de sexe. Ben j'en suis encore. Mais entre autres, j'en ai un là. Il est très masculin, beaucoup de pilosité. J'ai même pas fait son niveau de testostérone, c'est évident.
OK, mais dans la transition, là, lorsque l'enfant vieillit et va se rendre à 18 ans, lorsque le moment est venu peut-être de passer à l'opération ou aux opérations, qu'est-ce qui est plus facile? Quelle transition est plus facile? Un homme qui devient une femme ou l'inverse?
Ah, c'est beaucoup plus facile un homme qui devient une femme. On enlève le kit.
C'est ça. Parce que l'inverse, c'est plus compliqué.
Tandis qu'une femme qui veut devenir un homme, il faut lui implanter un kit.
Puis ça, ça fonctionne-tu ou...
Disons qu'une chance que c'est rare.
Ouais, hein? Ben, c'est ce que je pensais. Je me dis, mais semble que
bon,
c'est...
maintenant, il y a beaucoup de transsexuels qui sont transsexuels et qui gardent leurs organes génitaux.
Ah oui?
S'il vous plaît, prière de ne pas les tabasser. Si jamais ça vous arrive, là, messieurs, frappez-le pas à coup de poing. Alors, vous êtes trompé, vous lui dites bonsoir et vous quittez.
Ah, OK, vous voulez dire quelqu'un...
Correct? Ouais, on s'est bien compris, Catherine?
Oui, oh, oui. Ouais,
ouais. C'est respectueux?
Oui. C'est sûr que tu dois faire un saut. Hein? On se le cachera pas.
Bon, parce qu'il y a des transsexuels qui n'ont pas eu de transformation chirurgicale de leurs organes génitaux et qui vont qui vont se retirer pour une relation sexuelle avec un homme hétéro.
Oui.
Puis souvent... les hommes, et c'est là que l'expérience du vieux book entre en ligne de compte. Après 39 ans, je peux vous dire que la plupart des, surprenamment, la plupart des hommes transsexuels, c'est-à-dire des nés garçons, mm-hmm. vont être attirés vers des hommes hétéros.
Ah oui?
Ce qui peut leur poser de sérieux problèmes à l'occasion.
Oui. En effet.
J'en ai eu plusieurs qui m'ont dit qu'ils ont mangé une coupe de coups de poing.
Ça me surprend pas. Je fais un complément. Parce que hier, dans la conversation que l'on a eue, comme l'histoire de Jean-François nous parlait de Mélodie. Mélodie a un frère jumeau, mais ce ne sont pas des jumeaux identiques.
Oh, Isabelle m'a fait plaisir. C'était très bien articulé, Isabelle.
OK, bien là, je vous laisse aller, mais c'était, je ne suis pas là où je m'en allais. Qu'est-ce que vous voulez
dire? Non, mais je tenais à le dire avant que tu poses une question, que tu ailles sur autre chose.
OK.
Alors, la prise en charge du jumeau, j'ai écouté, elle m'a écouté là-dessus et on se rejoint. Alors, ta question
moi,
est...
Moi, je m'en vais ailleurs. C'est qu'hier, c'est provenu d'auditeurs. Parce que vous avez dit ceci, des jumeaux identiques, évidemment, il y a une génétique, ont la même personnalité. Ils sont pareils physiquement, mais ils sont pareils aussi de personnalité. Il y a quelqu'un qui m'a amené le sujet, le tueur de la mosquée de Québec, là, il avait un jumeau et je pense que c'est un jumeau identique. Faudrait valider. Mais si tel est le cas, là... quelqu'un qui a un jumeau identique, puis son jumeau a commis un acte criminel important, il a commis un meurtre, il a tué du monde. Est-ce que l'autre jumeau identique est un danger potentiel?
Bon, ce serait surveillé.
Ah oui?
Pour le trouble, ce serait surveillé pour le trouble mental sous-jacent. Écoutez, de dire de Bissonnette à Québec qu'il a accompli ce massacre-là, en pleine connaissance de cause et en pleine possession de sa volition, c'est un peu une farce, là. un peu une joke. Hein? Je pense que Bissonnette avait pas toute sa tête. J'ai écouté 20 minutes après le massacre. Il était perdu au pied de l'île d'Orléans. Il appelle la police pour savoir quoi faire. Allô, terroriste, s'il vous plaît.
Mais vous êtes capable de le dire sans l'avoir évalué?
Non, non, s'il vous plaît. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? On a été malveillants au point d'attendre 9 mois avant de le faire évaluer par un psychiatre. Ouais, est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas.
Bon, alors...
Mais donc, à ma question...
On le voulait sain d'esprit.
Oui.
Hein? On ne voulait pas qu'un psychiatre vienne dire qu'il était psychotique. À ta question, maintenant, s'il est vrai qu'il a un jumeau identique, le taux de prévalence de la psychose est très élevé chez le jumeau identique. Lorsqu'il y en a un qui fait une psychose, les risques que l'autre le fasse sont très élevés aussi.
OK, alors c'est...
C'est pas automatique, c'est non, pas 100%. Non. Et c'est ça qui bug. Je l'ai mentionné hier.
Oui.
Le taux n'est pas de 100%.
Mais donc, chez les jumeaux identiques, ce qu'on entend souvent, là, lorsque il y en a qui va dire « Hey, j'ai ressenti la même chose que mon jumeau identique alors que j'étais à 500 km. Mon jumeau a vécu quelque chose de traumatisant, je l'ai ressenti. » Ça, on est-tu dans le mythe ou on est dans la réalité?
On est près de la réalité.
Oui?
Ah oui.
Ah oui?
Ouais, ouais. Okay. Je t'ai parlé de psychisme identique hier.
Oui.
Cependant, les mères de jumeaux identiques vont dire ceci. Ils sont identiques, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va actualiser la chose que les deux pensent.
OK, expliquez-vous, là. Je ne suis pas sûr que je vous comprends.
Bon. Admettons qu'ils ont pensé à quelque chose.
Oui.
Ils se regardent, puis il y en a un des deux qui le fait.
Ah, OK. Ah oui. C'est quand même spécial, là.
Oh oui.
OK, fait que ça, c'est pas, on n'est pas dans le mythe, là. C'est, c'est réaliste.
N'oubliez pas, chers amis, que ça vous plaise ou pas, les jumeaux identiques sont des clones. Alors, avis aux adultes qui vont vouloir se cloner dans l'avenir. Vous créez simplement un jumeau identique. Vous ne créez pas un monstre.
Non, non, je comprends, mais
et
donc...
Et c'est à nos portes.
Est-ce que les
parce
jumeaux...
Parce qu'on a fait le clone, le jumeau identique du taureau Starbucks à Saint-Hyacinthe.
Oui.
Depuis la brebis Molly. Alors, on a fait un clone de la brebis Molly, qui était une brebis adulte en Angleterre. Ensuite, on a cloné Starbucks, qui était un des taureaux les plus connus du centre d'insémination artificielle de Saint-Hyacinthe autour du globe terrestre.
Et ça a donné quoi comme résultat? Génétiquement, Dr Mayou, y a-t-il un danger?
Ça a donné un clone. Maintenant, c'est pas tout à fait... Écoute, c'est encore... Je ne sais pas si on a éprouvé sa semence ou si on a eu peur.
Ouais, peut-être. Hein?
Tu sais, c'est de la nouvelle technologie, là, puis c'est assez... Alors, un jumeau identique né en même temps, c'est une chose. Un clone... Alors, parce que parfois, il y a des mutations. Il y a des petites mutations génétiques qui se produisent à cause de l'environnement ou à cause de différentes choses. Mm-hmm. Alors, lorsque vous clonez un adulte, vous allez cloner aussi peut-être les petites mutations qui se sont produites qui pourraient vous donner des différences.
Mais donc, une dernière question, okay, là, je pousse ça plus loin. Des jumeaux identiques séparés à la naissance puis élevés dans des familles différentes dont le développement est complètement différent, vont-ils quand même garder ce lien-là, au-delà du lien, cette espèce de chimie-là, de ressentir ce que l'autre ressent? Est-ce que, oui, est-ce que on pousse ça jusque-là?
De façon incroyable. Et si jamais vous remettez mes propos en question, appelez au Danemark.
OK.
C'est le pays au monde qui a la plus longue expérience de suivi de jumeaux identiques.
Ah oui?
Savez-vous pourquoi?
Non.
Parce que les Danois... Braves de nature, descendants des Vikings, masculins lorsque c'est le temps, ont décidé, jadis naguère, d'ouvrir les registres d'adoption.
Oh.
Il n'y a jamais eu, ou à peu près, depuis 70 ans, peut-être 80 ans, au Danemark, des registres fermés d'adoption. Alors, lorsque vous adoptez un bébé au Danemark, il est enregistré comme si c'était n'importe quel enfant. Ce qui a permis des études uniques au monde. Le Danemark étant le seul pays qui se différencie de toute la gang de pleutres autour du globe. Et je dis bien des pleutres.
Fait que ça veut dire qu'ils en savent plus.
Des lâches, ouais. Des hypocrites, des menteurs.
Ah, ça va bien. OK. Fait qu'eux ont fait ce que personne d'autre a fait.
Exact.
Okay.
Ce qui a permis des études extrêmement intéressantes sur la question que tu poses.
Ouais.
Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mm-hmm. Ils ont, compte tenu que le registre est ouvert, n'importe quel chercheur peut retracer des individus.
Ouais.
Alors, deux criminels qui s'accouplent, OK?
Ouais.
Deux criminels qui s'accouplent sont en prison. Le bébé est donné en adoption à la naissance.
Ouais.
Ils ont eu, la femme a eu des jumeaux identiques. Alors, un des jumeaux a été adopté par une famille de truands et l'autre jumeau a été adopté par une famille qui a de l'allure. Quel est le pourcentage d'adultes de ces jumeaux-là devenus adultes qui vont devenir des truands? N'oubliez pas, la mère est truante.
Ben, je pense que le pourcentage est très élevé, même s'ils sont élevés dans des familles différentes.
Jumeaux identiques, combien?
Ben, je sais pas, 70, 80 %
85.
Ah, OK. Je me disais, je vais-tu trop loin? Ah oui, bon, OK.
Par contre, vous prenez des enfants qui ont été adoptés qui viennent de bons parents, de bons citoyens.
Oui.
Jumeaux identiques, vous les faites élever dans des familles de truands. Quel est le pourcentage qui deviennent des truands?
20 % Même pas? Bon,
c'est exactement.
Ah oui? OK. Mais là, je vous le dis, là.
C'est bonne.
Je connaissais pas les chiffres, je me lance. Là.
Non, c'est 20-25, ouais.
Et c'est fascinant.
C'est 20 %
OK, ça me donne le goût d'aller lire.
Autrement dit, si vous prenez de la bonne graine puis vous mettez ça avec des truands, des bandits, 80 % vont devenir d'honnêtes citoyens.
Intéressant, Dr Mayou.
Écoute, le Danemark a mis une épide dans les hémorroïdes de la science mondiale.
C'est bien dit.
Tannant, le maudit Danemark. C'est un peu comme les Allemands, d'ailleurs.
Bon.
Proximité géographique.
Oui. Bon, le retour des Allemands.
Hein? Quel est le Danemark, si ce n'est l'appendice de... l'Allemagne.
Bon, on a plus
vous avez un petit, une petite excroissance au nord de l'Allemagne qu'on appelle le Danemark.
OK. Docteur Mayou, il faut s'arrêter là-dessus. Un complément.
Un peu de géographie en passant. À l'occasion, il m'arrive de vouloir étaler un peu mes lettres.
Oui, un peu vos connaissances. On l'a bien senti dans les dernières secondes. Complément d'information, parlant de connaissances, un auditeur qui veut compléter aussi, Tommy, oui. Que je salue, qui dit, vous écouterez le documentaire Three Identical Strangers qui raconte la séparation de triplés à la naissance, se rencontrant 20 ans plus tard. Très surprenant et sinistre comme documentaire. Un genre d'étude sur les ressemblances des jumeaux et leurs différences malgré l'environnement différent. Il vient exactement confirmer ce que vous dites. Ça donne raison au Dr Mayou.
Oui, attendez un peu.
Oui.
Oui, les triplets identiques et non pas fraternels.
Non, c'est ça. Mais
parce que les études des Danois ont été très claires là-dessus. Alors, les jumeaux fraternels, un garçon, une fille, ou deux garçons, deux filles, qui sont frères ou frères et sœurs, il n'y a aucune différence avec la population générale.
OK, parfait. Mais oui,
OK, alors triplet identique, ce qui est extrêmement rare.
Donc, je vais prendre ça en note, puis je vous donnerai...
Attention, parce que là, on va glisser dans les légendes urbaines. Là.
Non, mais peu importe. Mais je pense que le documentaire a été récompensé, puis ça semble être intéressant. Ça vient de sortir en 2018. Alors, Three Identical Strangers, c'est le nom.
Avec un grain de sel.
Oui, mais peut-être. Mais des fois, c'est
s'assurer
juste...
de la base.
Ouais, mais je vais aller
les... Est-ce que les triplets... Parce que... Écoute, des triplets, là, identiques, oui, c'est possible.
Mais c'est rare, hein?
Ben, parce que c'est l'embryon, il faut bien comprendre. Écoute, juste ça.
Oui.
Le spermatozoïde rencontre l'ovule.
Oui.
Après fécondation, ça se divise en deux.
Oui.
À un moment donné, ça se divise en deux, mais il se coupe. Alors, ça donne deux jumeaux identiques. Tu me suis?
Ça, je vous suis très bien. Oui.
Alors... Puis après ça, ben chaque partie se divise en deux, en quatre, etc. Là, ça se redivise.
Okay.
Mais pour qu'on ait un triplet identique, l'œuf fécondé s'est divisé un peu plus tard et il y en a résulté trois clones, trois individus avec le même bagage génétique.
Okay.
Soyons prudents.
Ouais, mais Tommy complète, Dr. Mayhew dit, les jumeaux aussi sont concernés dans le documentaire, les jumeaux identiques. Alors, de là peut-être l'intérêt. Il faut se laisser.
Il faut être vraiment prudent parce que triplet identique, là, qu'on pas éru, mais des jumeaux identiques, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Hey, on vous retrouve à 9h30 avec José.
Ouf!
Oui, c'est intéressant, par exemple. Ça me donne le goût
d'aller... travailler.
Ah, parfait. Au plus,
j'ai gagné mon argent ce matin, Catherine.
Votre argent, oui. On vous paye. Je viens d'apprendre ça. Bonjour, là. À tantôt. 9h30. 7h31. On s'arrête quelques instants.